Je vous rappellerai un souvenir. Quand j'étais au grand séminaire, il y avait un professeur éminent d'écriture sainte et qui se montrait parfois irrévérencieux. Et ce jour-là, il parlait, je ne vous dirai pas son nom parce qu'on m'enregistre. Et ce n'est pas gentil pour lui. Si, c'est gentil pour lui. Vous allez voir, c'est un homme drôle, mais encore une fois, irrévérencieux. Ce jour-là, il parlait des psaumes. Et plus particulièrement du psaume « Super Flumina Babylonis » au bord des fleuves de Babylone. Nous avions suspendu notre harpe. Dans ce psaume, il y a une phrase qui est belle, mais d'une poésie un peu sauvage. « Que ma langue s'attache à mon palais, si je t'oublie jamais, Jérusalem. » « A dereat lingua mea faucibus mei sinon me minero tui Jérusalem. » Et il comparait cette phrase avec sa traduction par Racine. « Puissais-je demeurer sans voix, si de Jérusalem la douceur, la douleur retracée jusqu'au dernier soupir n'occupe ma pensée. » Et il disait « C'est plus beau que le Saint-Esprit. » Et c'est vrai, vous savez. « Puissais-je demeurer sans voix, si de Jérusalem la douleur retracée jusqu'au dernier soupir n'occupe ma pensée. » C'est vrai, mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui emporte la faute. C'est l'instrument humain. Mais encore une fois, le psaume en question n'est pas laid. Il se trouve que le Saint-Esprit a choisi plutôt comme instrument l'auteur du psaume que Racine. Il aurait pu choisir Racine. Il ne l'a pas fait. C'est une transition, si vous voulez. Et aujourd'hui, je vous parle de la tradition. Les sujets que je traiterai, c'est une parenthèse que j'ouvre là, auront un certain rapport avec le catéchisme que je fais aux plus jeunes pendant la messe. C'est ainsi, par exemple, que la semaine prochaine, je leur parlerai des attributs de Dieu, de ses perfections, et à vous, je parlerai de la providence. Nous sommes entre nous dans l'introduction, mais une introduction importante. Ceux qui étaient là la semaine dernière ont compris que ces choses que je dis sont importantes parce que ça nous évite de penser et de dire des bêtises, surtout en ce moment. La Sainte Écriture, la tradition. Vous comprenez maintenant que la tradition englobe l'Écriture. L'Écriture est un chapitre de la tradition. Ce soir, je traiterai de la tradition au sens strict, c'est-à-dire de la tradition orale. Et pour que vous me compreniez d'un bout à l'autre, dites-vous que je parle de l'Église comme si je parlais de quelqu'un, d'une belle dame, l'épouse sans tache ni ride dont parle saint Paul. Quand je parle de l'Église, je pense à quelqu'un. Si vous voulez vous représenter cette belle dame, pensez à la Sainte Vierge. Ce n'est pas une comparaison que je tire par les cheveux. Parce que, imaginez que l'Église disparaisse et qu'il ne reste plus que la Sainte Vierge. Eh bien, ce n'est pas catastrophique. Parce que la Sainte Vierge est le résumé de l'Église et sa perfection. Elle est réellement l'épouse sans tache ni ride. Représentez-vous l'Église comme la Sainte Vierge. La Sainte Vierge qui a grandi, voilà que je parle de tradition déjà, qui a grandi, qui a connu l'enfance, la jeunesse, et puis qui est au ciel maintenant, dans sa gloire, dans la gloire de son Fils. La tradition. Vous avez tout pour comprendre ce qu'est la tradition maintenant. Une autre remarque avant de commencer. Le seul juge de la tradition, c'est l'Église. Je vous ai dit que tradition et Église, c'est un peu la même chose. La tradition, si vous voulez, c'est la réflexion que fait l'Église sur elle-même avant d'agir. Avant d'agir, en principe, vous réfléchissez. Vous entreprenez tel travail, vous vous dites, voyons, est-ce que j'ai la force ? Non, je n'ai pas la force. Alors, vous ne travaillez pas. Vous avez réfléchi sur votre tradition personnelle. Et puis, vous n'avez pas agi parce que vous étiez renseigné. L'Église et la tradition, vous y voyez déjà un petit peu plus clair. Les caractères de la tradition. Tout d'abord, elle est antérieure à l'Écriture, mais ça, nous le savons. Elle est antérieure dans les deux sens du mot. Elle est antérieure au Nouveau Testament, parce que cette tradition orale existait avant les évangiles et les épîtres. Soyons précis, autant que je puis l'être, dans ces affaires de chiffres. Disons que notre Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité autour de l'an 30. J'arrondis, c'est l'an 30. Les premiers écrits du Nouveau Testament, c'est-à-dire les épîtres de saint Paul, c'est-à-dire plus spécialement, autant que je me rappelle, l'épître aux Galates, c'est l'an 49. Pendant une vingtaine d'années, il y a eu l'Église avec sa tradition orale et pas de tradition écrite. Il y avait bien l'Ancien Testament, mais l'Église s'était-elle déjà décidée à l'admettre dans son canon ? Oui, en gros, mais ce n'était pas très net. En ce sens-là, l'Église est antérieure à l'Écriture. Elle lui est antérieure aussi pour la raison que je vous ai dite la semaine dernière. Parce qu'elle est plus importante que l'Écriture, la tradition orale. La tradition tout court, je dis des bêtises. La tradition est plus importante que l'Écriture. Nous ne connaissons l'Écriture que par la tradition. C'est elle, c'est l'Église qui me dit « tel livre est inspiré », mais ça nous le savons. Donc la tradition, c'est très très important. Je ne me rappelle plus si je vous ai dit, si je vous l'ai dit, mais je le répète, c'est important aussi, que l'Église est le seul juge de sa tradition. Je ne l'ai pas dit, mais je l'ai laissé entendre. Ce n'est pas à nous de décider que telle chose est dans la tradition de l'Église. Je n'ai pas à décider de cela. On parle beaucoup en ce moment de tradition, de traditionnalistes, et de je ne sais qui encore. Les traditionnalistes, paraît-il, sont des gens qui savent où est la tradition et qui en décident. Ils ont bien tort. Ce n'est pas leur rôle. Il n'est pas dans notre rôle de décider ce qu'il y a dans la tradition. L'Église a mission pour le faire et elle seule. Cette dame, sans tache ni ride, qui a reçu l'Évangile en dépôt, elle a sur son cœur ce gros livre qui s'appelle la Sainte Écriture. Elle l'ouvre, elle nous la lit, cette écriture, elle nous l'explique. Elle sait ce qu'il y a dedans, ou bien les livres sont nés dans son sein, chez elle, parmi ses enfants, on a écrit cela, ou bien elle les a pris dans une tradition antérieure, mais a reconnu en eux sa pensée. Antérieure à l'écriture, donc. Elle est plus large que l'écriture, la tradition orale. Il se trouve dans la tradition orale des vérités que l'Écriture ne nous dit pas. Je vous ai signalé la dernière fois le baptême des enfants. Ceci sur le plan de l'action, de la vie. Que faut-il faire? Faut-il baptiser les enfants? Notre Mère, la Sainte Église, se recueille, consulte sa tradition, remonte aussi loin que sa mémoire le lui permet, et elle lui permet beaucoup. Et elle constate qu'elle a toujours baptisé les enfants. Le dogme de l'Assomption n'est pas dans l'Écriture. C'est une donnée de la tradition. Quand le pape Pie IX, non, quand le pape Pie XII, excusez-moi, a défini le dogme de l'Assomption, il a interrogé la tradition de l'Église. Il y a des vérités qui sont un tout petit peu dans l'Écriture et beaucoup plus dans la tradition orale. Par exemple, l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, dans l'Écriture, vous trouvez simplement ces deux mots que vous connaissez parce que vous les récitez tous les jours. Gratia plena, pleine de grâce, c'est tout. Et puis, il y a la tradition orale. Et c'est en s'appuyant sur ces deux mots d'une part et sur la tradition orale d'autre part que le pape Pie IX a défini le dogme. Et enfin, troisième caractère, la tradition orale mérite la même foi que la Sainte Écriture. Et encore une fois, c'est l'Église qui en est l'interprète. N'allez pas vous dire que votre idée de la tradition sur tel point est aussi solide que le dogme de l'incarnation qu'on trouve en toutes lettres dans l'Écriture, parce que vous n'êtes pas, vous, l'épouse sans tache ni ride. Vous n'êtes pas l'Église et vous n'avez pas mission pour en décider. Quels sont les canaux de la tradition? Je les ai écrits à peu près dans l'ordre d'importance. Il y a d'abord les symboles de la foi. Le symbole des apôtres ou le symbole de Nicée-Constantinople. Le symbole de Nicée-Constantinople, vous l'avez récité tout à l'heure, vous l'avez chanté plus exactement. Le symbole des apôtres, je suppose que vous le récitez de temps en temps, il est plus court mais plus ancien. C'est le petit « je crois en Dieu ». Symbole veut dire résumé. Ce petit « je crois en Dieu » n'a pas été composé par les apôtres comme on l'a prétendu très longtemps, mais il est pratiquement contemporain des apôtres, à quelques mots près. C'était un de ces petits formulaires que la toute primitive Église se récitait pour être bien sûr de ne rien oublier de ce qu'il fallait croire. Alors ça, c'est très solide. C'est un canal de la tradition sans faille. C'est véritablement ce qu'il faut croire. L'Église n'a qu'à recueillir cela et le répéter. Elle ne peut rien en changer. De même que les définitions des conciles qui viennent ensuite. Elle peut en ajouter, elle peut développer le sens des phrases, elle ne peut pas aller contre. Vous avez les actes pontificaux qui sont de valeurs diverses. Certains sont très forts, très solides, et puis d'autres sont simplement des indications. Il y a une dégradation dans ces canaux que je vous énumère. Les premiers, eh bien, c'est véritablement la tradition avec un grand T, ce qu'il faut croire. L'Église n'a plus rien à en décider parce que c'est décidé déjà. Et puis, petit à petit, nous tombons dans des domaines où c'est moins important. Les écrits des pères, les pères de l'Église. Les pères de l'Église ne sont pas à confondre avec les docteurs de l'Église. Les pères de l'Église sont appelés pères parce qu'ils ont vécu il y a très longtemps. C'est leur seul titre à être père. Autrement dit, saint Thomas d'Aquin n'est pas un père de l'Église, non pas parce qu'il n'est pas un homme très bien, mais parce qu'il n'est pas assez vieux. Les pères de l'Église, ce sont les écrivains ecclésiastiques des premiers siècles. Parmi eux, il y a des saints, il y en a beaucoup, et parmi eux, il y a aussi des hérétiques, par exemple Tertullien ou Origène, qui ne sont pas des saints, et qui n'ont pas dit que des choses très très bien. Voyez-vous qu'il y a une dégradation dans ce que je vous raconte. J'avais tout à l'heure les symboles de la foi, les actes des conciles, les actes des pontifes, et voilà maintenant les pères de l'Église, dont certains sont saints, et se trompent parfois d'ailleurs, et dont certains ne sont pas saints, et ne se trompent que rarement d'ailleurs. Mais de toute façon, ils sont des témoins de ce qui se faisait et de ce qui se croyait en leur temps. Je prends un exemple. Saint Irénée, il est vieux celui-là, évêque de Lyon. En son temps, il s'éleva une querelle en Orient à propos de la date de Pâques. Les uns tenaient pour telle date, d'autres tenaient pour telle autre date. Et pour dirimer la question, on résolut de s'adresser à une autorité. C'est Saint Irénée qui nous raconte tout cela. Je simplifie un peu, hein. Mais enfin, c'est par Saint Irénée que nous le savons. Cette autorité, quelle pouvait-elle être? L'apôtre Saint Jean vivait encore. Or, ce n'est pas à Saint Jean que les adversaires s'adressent pour régler la question, mais c'est à l'évêque de Rome, Clément. Et nous avons là un témoin de la croyance de la toute primitive Église en la primauté pontificale. Clément de Rome passait avant l'apôtre Saint Jean. Vous voyez en quoi les pères de l'Église, entre autres choses, entre autres manières, peuvent être canaux de la tradition. Ils le sont plus souvent de façon très franche, parce qu'ils nous disent de belles choses. Il se trouve que pendant ces premiers siècles, les auteurs chrétiens ont été dans l'ensemble assez bon, et je suis modeste quand je dis assez bon. Les docteurs de l'Église, nous baissons d'un tout petit cran. Les docteurs de l'Église sont tous des saints, mais dans l'ensemble, ils sont plus proches de nous. Il y a des pères de l'Église qui sont des docteurs, par exemple Saint Jean Chrysostome ou Saint Augustin, Mais vous avez des docteurs de l'Église qui sont tout ou proches de nous. Saint François de Sales, Saint Alphonse de Ligori, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Catherine de Sienne. C'est pas jeune, mais enfin, c'est plus proche que les pères de l'Église. Ce qu'ils disent est très intéressant, dans la lettre même, et puis aussi, parce qu'ils sont témoins de ce qu'on croyait et pratiquait en leur temps. Alors, quand l'Église veut consulter sa tradition, elle a affaire à eux. Elle les consulte. L'enseignement unanime des théologiens. Je descends de 10 degrés. Et quand je parle des théologiens et d'enseignement unanime, je parle des théologiens de tous les temps, et non pas des théologiens de l'époque que nous vivons, qui se parlent de ce nom souvent, mais qui n'y ont pas droit. La pratique générale est constante dans l'Église. Alors, ce sont les historiens qui nous renseignent sur ce point. La liturgie. Ça, la liturgie, c'est très très intéressant. Parce que la liturgie a un côté infaillible. Je regrette ce que je viens de dire, elle est infaillible d'une certaine manière, la liturgie de l'Église. L'Église ne peut pas errer en matière liturgique. Je parle de la liturgie officielle, de la liturgie de l'Église, et non pas des inventions de choses ou de machins. Je ne dis pas qu'une liturgie admise par l'Église soit ce qu'il peut y avoir de mieux en la matière. Mais de façon négative, le Saint-Esprit empêche l'Église de se tromper sur ce point, parce que la liturgie, c'est la foi vécue, si vous voulez. Les Anglais du siècle dernier prétendaient que l'Église anglicane, c'était le parti conservateur en prière. Eh bien, c'est un peu cela, voyez-vous, non pas que nous soyons à comparer au parti conservateur, ce n'est pas cela. Mais la prière de l'Église exprime sa foi. C'est ce qu'exprimait Saint Vincent de Lérins sous cette formule très connue. Comment dire ça ? Lex orandi, lex credendi. La loi de la prière est l'expression de la loi de la foi, de la loi de la croyance. Je prends un exemple. On a à plusieurs fois dans l'histoire de l'Église fait remarquer que c'était curieux tout de même de prétendre que notre Seigneur est présent tout entier sous les apparences du pain et tout entier sous les apparences du vin. Il y a de temps en temps quelqu'un pour dire cela. Et il dit, voyez-vous, il suffit de lire l'Évangile. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Le corps est là, le sang est là. Et l'Église se recueille, réfléchit sur sa tradition et s'aperçoit que depuis très très longtemps, eh bien, on donne aux fidèles la communion seulement sous l'espèce du pain si on est en Occident. Et seulement sous l'espèce du vin en Orient, après le baptême des petits-enfants, qui font en même temps leur première communion. Et l'Église déclare, vous voyez bien, notre Seigneur est tout entier présent sous les espèces du pain, tout entier présent sous les espèces du vin, vous en avez la preuve dans ce fait que l'Église agite ainsi depuis très longtemps. Sa liturgie me renseigne sur sa croyance. Vous voyez comment la liturgie peut être un canal de la tradition, c'est un canal important. Et puis il y a l'art chrétien. Par exemple, ce qu'on trouve dans les catacombes, les peintures, les petites statues qui sont rares, mais qu'on peut trouver. Cela peut nous renseigner sur la croyance des premiers chrétiens. Les protestants prétendent qu'il ne faut pas représenter ni Jésus, ni la Vierge, ni les saints. Il ne faut pas représenter Dieu. Et ils s'appuient sur ce texte de l'Ancien Testament, qui existe. Le texte est l'Ancien Testament. Tu ne feras pas d'image taillée. Alors, comment répondre à cela quand on s'appelle l'Église? Eh bien, on se rappelle sa jeunesse, on consulte sa tradition, et on fait remarquer que dans les catacombes, il y a des représentations de Jésus. Et l'Église dit, puisque je le faisais quand j'étais jeune, je ne vois vraiment pas pourquoi je ne le ferai pas maintenant. Autrement dit, ce texte de l'Ancien Testament était une prescription de caractère transitoire. Voilà donc les canaux de la tradition. Il me reste à parler de ce qui est peut-être le plus important, le développement du dogme. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit de la tradition, de l'Église? C'est une personne. Nous sommes autant de personnes que de personnes ici. Nous n'avons pas le même âge. J'ai eu autrefois 6 mois, 10 mois, 7 ans, 8 ans. J'étais très mignon, j'étais blond, j'étais mince et je plaisais à la maîtresse. Tout ça, c'est fini. Et pourtant, je suis resté le même. Je suis resté le même. Je me suis développé. Je crois que j'ai acquis beaucoup de choses. J'en ai perdu d'autres, mais je ne vous les signalerai pas. Je sais beaucoup plus de choses qu'autrefois. Je sais mieux les exprimer. J'ai acquis une certaine sagesse. Je ne dis plus n'importe qui, n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand. J'ai appris cela. Je me suis développé. Je ne suis pas devenu un singe. L'enfant que j'étais est devenu un homme. Si j'étais devenu un singe, on parlerait d'évolution, on ne parlerait pas de développement, ni de progrès. Vous commencez à voir où je veux en venir. Le dogme n'évolue pas, faites attention aux mots. Il n'évolue pas. Il progresse et il se développe. Et je m'arrête pour vous dire une chose qui est importante aussi, en ce moment. Il y a beaucoup de choses à dire en ce moment qui sont importantes. La tradition n'est pas une sclérose, ce n'est pas non plus de l'archéologisme, comme disait Pie XII. Les hérétiques ont toujours tendance à remonter au tout premier siècle pour retrouver la véritable Église, en ne tenant pas compte de ce qui s'est passé depuis. Imaginez que tout à coup, je veuille de nouveau mon biberon. Je veux mon biberon. Voilà ce que font les hérétiques. Ils veulent retourner... Ils prétendent que c'est cela l'Église. Alors, c'est ce que j'appelle, ou plutôt c'est ce que Pie XII appelait de l'archéologisme. Il s'est passé quelque chose entre-temps. La tradition a continué d'agir. Ce n'est pas non plus une sclérose. Alors, je pense à une autre tendance, là. Une autre tendance qui est la même, finalement, mais qui ne nous fait pas remonter si loin. Par exemple, on estime que l'Église s'est arrêtée il y a 15 ans ou il y a 20 ans. C'est pareil, hein. On ne va pas si loin, simplement, on a la flemme. Alors, voyez-vous, il s'agit de quelqu'un qui grandit. Quelqu'un qui grandit. Quelqu'un qui se développe. Un dogme peut se développer. On peut trouver dans une définition dogmatique quelque chose qui n'a pas été dit, une précision à apporter, ça c'est possible. On ne peut pas aller contre. Je ne peux pas aller contre le fait que je suis ce que je suis. Je ne peux pas. Je ne peux pas, par exemple, décider tout à coup que j'ai une habileté manuelle formidable, parce que ce n'est pas vrai. Si je veux faire quelques progrès, j'ai eu du mal à mettre cela dans la tête. Pendant des années, j'avais une soif de savoir des tas de choses, et je me mettais à apprendre des choses que je ne pouvais pas apprendre. Je le sais maintenant. J'aurais mieux fait de prendre les bonnes directions qui sont les miennes. Elles sont bonnes parce qu'elles sont les miennes. N'est-ce pas? Alors, voilà la tradition de l'Église, si vous voulez. Le développement. Celui qui a le mieux expliqué cette affaire du développement, c'est ce cardinal Newman que je vous citais la dernière fois. Newman, vous savez, est venu de l'anglicanisme. Il n'avait jamais rencontré pratiquement de catholiques, de prêtres catholiques ou de fidèles. Jamais, parce que les Anglais de l'époque, plus encore que les Anglais d'aujourd'hui, méprisaient ce qui est continental, catholique, latin, et bête. Tout cela, c'était dans le même sens et dans le même sac. Hein. Et s'il est devenu catholique, c'est simplement parce qu'il a étudié l'histoire de l'Église et parce qu'il avait une âme très droite. Il était ministre anglican, je ne dis pas prêtre, je dis ministre anglican. Il était professeur à Oxford et avec un groupe d'amis, il lança ce qu'on a appelé le mouvement d'Oxford. qui était un effort pour faire revenir l'anglicanisme à des formes plus catholiques, car ces gens-là sentaient que le protestantisme était une erreur. Et puis un beau jour, je ne vous donne pas les détails, c'est trop compliqué, Newman se rendit compte qu'il se trompait. L'anglicanisme ne pouvait pas supporter le catholicisme que lui voulait lui infuser. Alors il se trouva bien perplexe. Il avait d'une part l'anglicanisme dans lequel il ne croyait plus, et le catholicisme romain dans lequel il ne voulait pas croire. Et pourquoi n'y voulait-il pas croire? Parce qu'il voyait une Église extrêmement différente, je veux dire l'Église romaine, de ce que l'Église avait été pendant les 3 ou 4 premiers siècles. Et il se disait, ce n'est pas possible. Ce sont deux églises. Jusqu'au jour où il lui vint une idée. Mais après tout, ne s'agirait-il pas d'un développement? Ces deux églises me paraissent différentes, Rome et l'Église des Pères, mais n'est-ce pas la même? N'est-ce pas la même personne qui a grandi, qui a progressé, qui s'est développée? Pour y réfléchir plus à l'aise, il se retira dans une solitude, Littlemore, à quelques kilomètres d'Oxford. Il y demeura 2 ou 3 ans. Il écrivait un livre. Il ne l'écrivait pas pour la publication, quoique ce livre ait été publié. Il l'écrivait pour y voir clair. Ce livre s'appelle « L'essai sur le développement ». « Essay on development ». Il ne le termina pas. Il y manque, je crois, les 10 dernières lignes. C'est pour vous prouver qu'il ne cherchait pas à publier un livre. 10 lignes avant de terminer, il était convaincu. Et il écrivit simplement, dans les éditions, la phrase y est, cette parole de Saint-Luc, « Nunc dimittis servum tuum domine, secundum verbum tuum in pace ». Maintenant, laisse aller ton serviteur dans la paix. Le soir même, il fit prévenir un prêtre catholique, un Italien qui était de passage à Oxford. Celui-ci vint, sans savoir pourquoi on le demandait. Il pleuvait, bien sûr, nous sommes en Angleterre. On le fit entrer dans une pièce, il y avait là un feu qui brûlait dans une cheminée. Ce pauvre prêtre était trempé comme une soupe. Il se chauffait, se séchait comme il pouvait. Il vit arriver un grand Anglais maigre, Newman, qui lui dit « Mon père, voulez-vous entendre ma confession ?» Alors voilà la tradition. Elle est dite tout entière dans une parole de l'Évangile que vous connaissez, qui sera mon résumé et ma conclusion. Le royaume des cieux est comparable à un scribe qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes.